Les séminaires du Collège de France.
Bien, on va passer à la deuxième partie de cet après-midi, qui est donc notre séminaire, qui est un peu plus large que le cours. Le cours, c'est sur les trois rois bibliques. Et le séminaire, c'est sur légitimation et contestation du pouvoir politique dans la Bible hébraïque et dans le Proche-Orient ancien. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec l'Égypte, ce qui est une très, très bonne chose. Donc, avant de vous présenter Monsieur Andrea Pilon, donc, contrairement à ce qu'indique son nom pour les Français, si vous voyez bien, c'est un monsieur qui va peut-être se présenter lui-même. Et donc, je vais le présenter tout de suite, simplement pour vous dire que vous le savez peut-être, aujourd'hui, à 18h, il y a une leçon inaugurale de Madame Léa Huppi qui va amener beaucoup de monde. Et il faut que Francesco et toute son équipe, que je remercie par ailleurs, qu'ils aient le temps un peu de préparer la salle. Donc on ne va pas aller jusqu'à 16h45. À 16h25, je vais commencer à vous faire évacuer de manière tout à fait civilisée. Mais donc ça veut dire qu'Andrea va parler à peu près une heure et on aura une dizaine de minutes pour poser des questions. Donc Andrea Pilon est donc italien. Il a fait ses études à Paris et aussi à Venise d'abord. Il a fait son doctorat à la Sorbonne et en co-tutelle avec l'Université de Venise. Voilà. Donc, et puis, il a passé beaucoup de temps au Caire, à l'IFAO. C'est un jeune égyptologue qui s'intéresse à beaucoup de choses. Donc, actuellement, il travaille comme à terme, mais c'est peut-être terminé à Lyon. Il était longtemps, il a aussi son petit fans club de la bibliothèque d'égyptologie. Donc il a beaucoup travaillé à la bibliothèque d'égyptologie, à laquelle il a rendu aussi des grands services. Et il s'intéresse à beaucoup de choses. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais juste donner quelques indications. Il s'intéresse à l'histoire de la première période intermédiaire, à la culture des élites et urbaines, le genre biographique, ça peut être intéressant pour nous, pour l'historiographie, l'archéologie, épigraphie, prosopographie du troisième millénaire. Ça nous amène un peu en arrière par rapport au récit biblique, mais vous connaissez tous la longue durée, donc même des choses du troisième millénaire peuvent parfois se mettre en dialogue avec le premier, donc toujours avant l'ère chrétienne. Donc vous allez entendre une conférence qui s'appelle « Pharaon accomplit ta tâche » ou « La royauté égyptienne face à la crise ». Donc c'est tout à fait, vous l'avez déjà indiqué, c'est tout à fait quelque chose qui est de grand intérêt pour le cours aussi que nous avons. Voilà, merci d'être venu et je te donne la parole.
Merci Thomas, et merci aussi Hervé de m'avoir invité ici pour cette invitation. Et je vais essayer de me rapprocher un peu d'autres époques, hein. Je ne vais pas parler que de la troisième millénaire. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez large, la royauté égyptienne. Mais je m'appuierai sur différents exemples de sources pour montrer comment la légitimité de Pharaon pouvait se construire ou au contraire se délégitimer. À travers cette revue de cas, j'espère pouvoir proposer en conclusion une réflexion historiographique un peu plus générale, en tout cas l'aboutir, l'esquisser, qui, je l'espère, pourra nourrir notre discussion, cette discussion ici dans le cadre de ce séminaire. Des noms comme Ramsès, Hatshepsut, où Toutankhamon font rêver les voyageurs comme le grand public. Mais il est indubitable que la royauté égyptienne a été l'une des toutes premières institutions à attirer l'attention, surtout des historiens. Observée, analysée, commentée, elle fascine depuis des siècles des historiens grecs comme Hérodote jusqu'aux égyptologues d'aujourd'hui, ayant produit une bibliographie sous le sujet pléthorique. Au cœur de cette fascination, la sacralité du souverain. C'est l'un des premiers aspects remarqués. Pourquoi ? Parce que les premières sources disponibles après le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, fondateur de l'égyptologie ici même, étaient surtout les inscriptions monumentales des temples. Et là, le roi n'est pas seulement un dirigeant, il est prêtre, celui qui accomplit l'offrande. Fils des grandes divinités, acteur central du monde sacré. En ce sens, l'expérience des premiers orientalistes du XIXe siècle et du XXe siècle de notre ère a joué un rôle clé. Tout comme dans les monarchies européennes et modernes, où les souverains entretenaient un lien particulier avec les églises, à une époque où la séparation entre pouvoir laïque et pouvoir religieux n'était pas toujours assurée, les historiens ont d'abord vu le pharaon comme une figure divine. Une figure qui s'inscrit parfaitement dans l'image mythique d'un despote capable de mobiliser tout un peuple pour se faire ériger une pyramide. Pendant un demi-siècle, les textes mythologiques égyptiens ont ainsi lu selon ce qu'on appelle une approche éphémériste. Osiris, par exemple, n'était pas considéré comme un dieu par des savants, comme le philologue Sethe, l'anthropologue Fraser, l'archéologue Amélineux, mais comme l'un des tout premiers rois. Seulement avec l'OTAN, il serait devenu, selon eux, le grand dieu que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est un professeur du Collège de France qui a essayé de nuancer cette vision, c'était Georges Posner, qui a publié ce livre intitulé « De la divinité du pharaon » et qui a essayé donc de faire comprendre qu'il fallait peut-être parler de pharaon de manière différente. Il a passé en revue la bibliographie de l'époque, il a trouvé que ces trois auteurs étaient très importants pour comprendre le parcours du raisonnement, de la pensée des historiens sur la notion de royauté en Égypte ancienne, Moret, Bayet, Jacobson et Frankfurt. Et évidemment, de ces auteurs découlent les études de nombreux égyptologues tels Vandier, Gardiner, Wainwright, Blecker, et ainsi de suite. Tous énumérés, évidemment, et commentés par Posner dans son livre. Et qu'est-ce qu'il conclut ? Il conclut en disant que cette évolution dans la manière d'aborder le problème et de le résoudre reflète les changements qui se sont produits depuis un demi-siècle dans les études comparées des religions, des sociétés et des formes de pensée anciennes, changements qui ont profondément modifié les idées touchant la royauté sacrée en général. Mais comment il résume la pensée donc, qui était celle des égyptologues avant lui ? Il dit, à comparer les quatre auteurs, on ne manque pas d'observer une certaine progression de la façon de concevoir la nature sacrée du roi d'Égypte. Dieu, encore imparfait chez Moret, notion idéale de chez Bayet, le pharaon reçoit chez Jacobson la suprême puissance divine et devient chez Frankfurt la cheville ouvrière de l'univers. La divinité du roi est le centre de toute la vie concrète de la société dont elle détermine le comportement. Donc, Posner invite à bouger, à changer de perspective. Il essaie de montrer exactement que l'image courante du pharaon est par certains côtés excessive et surtout qu'elle n'est pas la seule qui fournisse les sources. L'Égyptien pouvait aussi avoir de leur souverain et de son rôle des conceptions différentes et plus modérées. En effet, qu'il utilise des études de cas, il va trouver que le roi dépend ce qu'il décide des divinités. Il n'est pas complètement autonome. Donc, il sépare d'une certaine manière la fonction, celle du roi, de celle des divinités. Et par la suite, il va trouver aussi des phrases dans lesquelles les rois font ce qu'on appelle les protestations de véracité, c'est-à-dire que le roi, lorsqu'il proclame d'avoir, par exemple, érigé un obélisque, il va terminer son discours commémoratif en disant « J'ai dit bien la vérité, je ne dis pas des mensonges à ce propos. » C'est pour ce genre de phrase et de l'évidence que Posner essaie de nuancer donc cette divinité de Pharaon. Évidemment, son titre n'est pas pour dire que le Pharaon était divin, mais bien le contraire. Et c'est la même année que l'apparition de ce livre que Hans Gueduquet publie une étude sur la terminologie utilisée pour désigner le souverain. Il montre qu'il existe une distinction nette entre la fonction royale, le mot Nessut, et la personne du roi, le thème Rem, souvent traduit par Sa Majesté. Cette interprétation reste largement suivie encore aujourd'hui, malgré quelques nuances avancées par certains historiens. Annoncer l'idée selon laquelle le roi n'était pas véritablement un dieu, proposée par Posner, parmi les égyptologues, on peut citer Joachim Quack, dans un article paru en 2010. Il insiste sur plusieurs exemples et aspects où la royauté est explicitement assimilée à la divinité. C'est un texte et représentation ne laisse guère de doute. Le roi partage des attributs, des fonctions et parfois même une nature divine. Mais Quack rappelle aussi un point essentiel. Les dieux eux-mêmes peuvent voir leur autorité contestée, diminuée ou mise à mal dans certains récits mythologiques, tout comme les rois dans l'histoire. Or, le fait qu'un dieu puisse être affaibli ou à un moment donné ne signifie pas qu'il cesse d'être un dieu. De la même manière, les difficultés politiques ou les échecs d'un souverain ne suffisent pas à nier la dimension divine, si elle y est, de la royauté. Concernant la contestation des dieux, on connaît par exemple le livre de la destruction de l'humanité où le dieu Ré, le dieu solaire devenu vieux, est contesté par des révoltes d'hommes. Pour les punir, il décide de les anéantir et envoie à la déesse Lyon, une forme menaçante d'Hathor ou d'autres divinités féminines, ça dépend des versions, pour les détruire. Mais Ré est rapidement attristé par cette violence dont il est à l'origine et demande à ce qu'on sauve les hommes en apaisant la lionne. Celle-ci se transforme alors en vache céleste pacifique. Or, l'idée de Quack est déjà celle d'un historien de religion, Klaus Koch. Selon lui, les chercheurs ont souvent tenté de comprendre la divinité égyptienne à travers des filtres qui sont modernes, inadaptés, on pourrait dire comme ça, au contexte ancien. Et il faut donc peut-être reprendre cette analyse, bien que on sait bien, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sous la notion de la divinité en Égypte ancienne, et le nombre de livres, d'articles, ça signifie bien que c'est une notion complexe et sans doute encore à mieux cerner. Alors, je ne peux pas m'attarder davantage sur la question de la divinité royale, qui est complexe donc, et qui dépasse le cadre de cette intervention. Je voudrais simplement souligner une idée qui commence à faire consensus. Ce n'est peut-être pas tant la personne du roi qui est divine en permanence que la fonction royale elle-même. Autrement dit, c'est la charge royale qui possède une dimension divine. Au moment de l'intronisation, le souverain incarne cette aura, cette puissance attachée à la fonction. On lui attribue d'ailleurs 5 noms différents qui sont son protocole royal, politique, et sont liés au dogme de l'unité du pays et de l'ascendance divine du roi, comme on le verra, ces dogmes, on va les voir tout de suite. Et point essentiel, si la fonction royale, en tant que principe, ne semble jamais véritablement contestée dans l'histoire égyptienne, les rois, eux, pouvaient l'être. Il faut donc distinguer l'institution et l'individu un peu comme le disait Gueduquet, mais de manière trop radicale. Par ailleurs, la royauté est conçue comme un don des dieux. En retour, vous voyez bien ici la notion de la royauté qui est donnée dans cette image où on voit Amon assis sur le trône qui donne la royauté à la reine agenouillée. Le texte explicite bien, Amon donne à Chipsout la royauté. En retour, le roi a une obligation fondamentale, garantir l'ordre du cosmos symbolisé par la déesse Maat. Et ce n'est pas un hasard si, dans les temples, l'offrande ultime que le roi présente aux dieux est précisément la figure de Maat. Il offre l'ordre en échange du maintien de l'ordre. C'est d'ailleurs Yann Hassmann qui est ici même, pendant des conférences du Collège de France des années 80, a étudié la notion de maths, élaboré la notion de maths. Il dit « Le monde n'étant pas un système auto-organisant, dépend d'une instance supérieure qui le maintient en marche. Cette instance est la domination, la monarchie divine qui se réalise au ciel dans la course solaire et sur terre dans l'état pharaonique. Si cette instance s'affaiblit, si la solidarité entre le ciel et la terre cesse, le processus cosmique se dirige inévitablement vers Isfet, c'est-à-dire le désordre, la contrepartie de Math. Et c'est donc un principe de réciprocité la royauté égyptienne est fondée. Le roi reçoit la royauté et il donne Math au dieu en retour. Tout ça dans la théologie politique égyptienne. Examinons maintenant comment la royauté égyptienne se légitime en commençant par un principe fondamental, l'unité du pays. Dès les premières dynasties, parfois appelées dynastie, par exemple, zéro ou première dynastie, ça dépend des études en cours, en tout cas dans la manière dans laquelle on appelle le début de l'histoire de la dynastie égyptienne, Pharaon se présente comme le garant de d'une réunification du pays. C'est une unification de deux terres, la Haute Égypte et la Basse Égypte, vous le savez bien, donc le delta et la vallée du Nil. Cette réunification symbolise l'union des deux régions qui sont à la fois réelles et symboliques. Donc la Haute Égypte et la Basse Égypte, la vallée du Nil et le delta. Et le roi, à travers ses attributs, ses insignes et ses gestes et rituels, incarne cette dualité et affirme son autorité sur l'ensemble du pays. Le roi d'Égypte est le roi de Basse et Haute Égypte. Le gouvernant des deux pays, alors qu'il n'y en a qu'un, mais les deux pays pour désigner les deux régions unifiées sous le contrôle du pharaon. Toute l'idéologie et le langage royal sont traversés par cette dualité fondatrice de l'État. Je vous donne ici juste un exemple de symbole de l'époque qui exprime cette dualité. Ce symbole, le Sematawi, qui est l'union du pays, vous voyez bien, deux divinités qui représentent la Haute et la Basse Égypte, ou ici des génies qui représentent les deux régions, personnification des deux régions, qui unifient comme dans un nœud, enfin faisant un nœud, les plantes qui symbolisent la Haute et la Basse Égypte, c'est-à-dire les papyrus et les plantes lotus. Même les couronnes, qui sont celles du pharaon, parle de cette dualité. On a la couronne rouge très célèbre de Basse Égypte et la couronne blanche de Haute Égypte qui en font une, c'est-à-dire celle-ci, elle n'est pas représentée ici, mais en tout cas, il y a la double couronne. Donc le roi, quand il porte la double couronne, représente cette dualité. L'autre principe dans le dogme de la royauté égyptienne est l'ascendance. Le statut du roi est associé dès l'épisode époque, même avant l'unification du pays, en divinité précise, le dieu Horus. À l'époque où l'Égypte est encore divisée en chefferies régionales, la figure royale est déjà pensée en lien avec lui. Horus, le faucon, est dans le mythe le fils d'Osiris, dieu souverain, maître de l'au-delà. Osiris est assassiné, vous le savez bien, par son frère Seth, dépecé, puis reconstitué par sa sœur et épouse Isis. Après sa résurrection, si on pourrait dire ainsi, il rejoint les étoiles impérissables et laisse le pouvoir à son fils Horus, qui devient l'héritier légitime du trône. Évidemment, je résume. Ce récit mythologique n'est pas seulement religieux, il fournit un modèle politique et justifie la légitimité du pharaon par une succession filiale directe. Le roi est Horus sur terre, successeur légitime d'Osiris. Ainsi, dans les premières représentations royales, Horus est associé à l'action même du souverain. Sur la planète de Narmer, par exemple, le faucon capture symboliquement les ennemis du Nord au moment même où le roi est représenté en train de les frapper. Le dieu accomplit la même action que le roi et en même temps, il le protège, placé derrière sa tête. Or, vous imaginez bien que ce principe de filiation était fragile. Je donne aussi une autre image de ce très belle de ce faucon protecteur d'un roi ici, Khéphren. Alors, ce récit mythologique n'est pas marche bien dans la mythologie, mais marche moins dans la réalité. Vous imaginez bien que ce principe est fragile. Tous les rois n'ont pas été les fils directs de leurs prédécesseurs, et certes la succession filiale était préférable, mais il n'était pas impossible d'y déroger. Et il existe des cas où la succession pose problème par absence d'héritier, par exemple par rivalité interne, changement de dynastie, et dans ces situations, le mythe ne fonctionne pas comme un acte constitutionnel au sens juridique. Ce n'est pas un code, c'est une narration, et une narration peut être adaptée. La filiation peut être proclamée, elle peut être reconstruite symboliquement, parfois en faisant intervenir une divinité avec une autorité nationale. C'est ici qu'intervient, par exemple, dans ce cadre, le dieu Amon. Vous connaissez sans doute l'exemple célèbre d'Hatshepsut. Cette femme qui devient un pharaon et qui, au cours de son règne, se fait représenter avec les attributs masculins de la royauté égyptienne. Pourquoi devient-elle souveraine? Et surtout, comment explique-t-elle sa légitimité, puisqu'elle n'est pas le fils d'un roi? Le fils masculin. Elle est fille d'un roi, on le verra, mais elle n'est pas un fils d'un roi. Et la réponse est remarquable, elle met en scène une naissance divine. Dans les reliefs de Deir el-Bari, le dieu Amon lui-même prend l'apparence de son père, s'unit à sa mère et engendre Hatshepsut. Elle n'est donc pas simplement fille du roi, elle est fille d'Amon. L'affiliation est déplacée, d'une certaine manière, sur le plan mythologique. Et on ne passe plus par la biologie stricte, mais par la théologie. Et ainsi, le problème politique est résolu pour une reconfiguration mythique. En effet, Hatshepsut était l'épouse de Thoutmôsis II, mais le couple n'a pas eu de fils à la mort de Thoutmôsis II, et c'est donc le tout jeune prince Thoutmôsis III, né d'une épouse secondaire, qui monte sous le trône. On le nomme Thoutmôsis III. Cependant, Thoutmôsis III n'a plus à presque trois ans, elle est très jeune quand il monte sous le trône. À la mort de son mari, Thoutmôsis II, Hatshepsut devient donc la régente de son neveu, qui, dans un premier temps, est bel et bien reconnu comme le seul roi légitime. Il possède déjà un protocole royal, mais au fur et à mesure, Hatshepsut accroît son pouvoir et affiche un rôle de souverain. On ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il est advenu d'Isis, la mère de Thoutmôsis III. C'est elle qui prend le devant. Veuve de Thoutmôsis II, Hatshepsut a une fille de Thoutmôsis Ier et de la grande épouse royale Akhmès, donc elle est quand même assez légitime dans la famille royale, et c'est peut-être cela qui explique son importance. Et Hatshepsut ne cache pas, au début surtout, de son règne, sa féminité, tant dans certains statuts, dans statuaires, que dans l'emploi, par exemple, des pronoms féminins dans les textes. Et Hatshepsut s'est ensuite rangé à une iconographie royale traditionnelle et donc masculine, surtout pour se faire représenter comme roi prêtre, comme roi ritualiste. Elle agit et se fait représenter comme roi légitime. Il y a énormément de textes, inscriptions, dans lesquels on commémore des actes d'Hatshepsut exercé en tant que reine légitime. Parfois, elle s'est fait représenter même accompagnée derrière elle par son neveu, mais elle reste protagoniste. Le cas est particulier parce que les années de règne de son époque ne sont pas les siens, mais sont les années de règne de Thoutmôsis III. Mais elle, quand même, elle veut garder il y a ce protagonisme qui est assez considérable et nouveau. Mais comment justifier sur le plan religieux sa légitimité en tant que souverain, comme le russe, l'héritier divin? Comme je disais, on a fait appel au dieu national Amon, le dieu de Karnak. Ceux d'entre vous qui ont visité le temple connaissaient très bien cette divinité. Elle revendique son ascendance divine par la théogamie, ou naissance divine, la revendication de sa légitimité à monter sur le trône trouve sa meilleure expression dans ces scènes conservées, je vous donne des dessins, en tout cas conservées dans son temple mémoriel funéraire à Deir el-Bahari à Luxor. Ici, la naissance divine comporte une scène érotique entre la reine Akhmès, c'est-à-dire la mère réelle d'Hatshepsut, et le dieu Amon. Les deux s'unissent sexuellement et sont représentés assis sur un lit. Et Amon prend ici la main de la reine et lui fait savoir qu'elle mettra au monde une fille issue de lui, comme s'il s'agissait d'un oracle. Par ailleurs, après, nous voyons le dieu Khnoum, le dieu potier, un dieu démiurge, qui modèle sous son tour des potiers, ici, Hatshepsut et son ka, c'est-à-dire son esprit. Et le corps est celui d'un jeune homme, et casse à l'image de la fonction royale. Puis la reine, la mère de Hatshepsut, enceinte, est représentée enceinte, et est conduite vers le lieu de l'accouchement et accouche avec l'aide des divinités. La nouvelle reine, Hatshepsut, est présentée à Amon. La revendication de sa légitimité à monter sur le trône trouve sa meilleure expression dans ce monument, mais la théologie, les scènes de mythologie vont avoir une histoire plus longue que le règne de Hatshepsut, on verra pourquoi. Cette revendication de légitimité par la mise en scène de l'ascendance divine est utilisée par d'autres rois par la suite. Et j'aimerais vous rappeler d'un cas particulier, celui d'Alexandre le Grand. Lorsqu'il conquiert l'Égypte pour assurer sa légitimité comme pharaon, alors qu'il est un prince macédonien, son lien avec ce pays, il traverse le désert libyen jusqu'à l'oasis de Siwa, ici, où était un temple du dieu Amon, ou Zeus, dans l'interprétation grecque. Et ici a lieu un oracle où le dieu affirme qu'Alexandre est bien son fils. Par la suite, Alexandre va se faire introniser, etc., etc. Dans le temple d'Amon, il y a des références à tout cela. Et par ailleurs, c'est une iconographie spéciale qui est utilisée pour Alexandre le Grand pour représenter, signifier ce qu'est ses produits et représenter donc son effigie, notamment dans les monnaies de l'époque. Qu'est-ce qu'apparaît ? En effet, apparaît une corne de bélier derrière l'oreille voici la carte de ici Siwa. Ici le temple d'Amon à Siwa. Donc je reviens aux monnaies de l'époque avec l'effigie d'Alexandre le Grand, dans laquelle on va trouver donc derrière l'oreille une corne de bélier. Et le bélier est une forme d'Amon. Donc on peut dire quelle meilleure image et processus de légitimation par l'image ici pour représenter cette ascendance divine. Or, la distance entre mythe et réalité était déjà évidente par les anciens. Et la fragilité de la légitimité successorale était elle-même thématisée dans les récits mythologiques, comme le montre bien la composition connue selon de la dispute entre Seth et Horus, ou les aventures d'Horus et Seth. Dans ce texte, un conseil de Dieu s'est réuni pour juger entre deux prétendants au trône, d'un côté Horus, de l'autre côté Seth, le frère mortel d'Osiris. Et ce mythe met en scène sous une forme dramatique ce qui devait souvent se jouer au sein du palais royal, à quel principe la force, la filiation, le droit ou à quel membre de la famille royale revenait la pleine légitimité du pouvoir. Le récit présente une longue succession d'épreuves, d'arguments et d'épreuves présentées devant le tribunal divin afin de déterminer quel est le plus légitime. Est-ce que c'est Seth qui invoque la force, la puissance, ou Horus qui incarne l'ordre et la loi? Or, pour consolider le pouvoir dans la réalité, le pouvoir du successeur, on a parfois recours au système de la corrégence, Dans ce dispositif, le prince désigné est associé au règne de son père de son vivant. La succession, donc, n'est plus une vraie rupture. Il y a plusieurs cas de corrégence qui sont bien attestés dans l'histoire égyptienne, d'autres qui sont discutés. Voici quelques exemples connus ou possibles. Et voici une image ici de Ramsès II qui est associé à Séti Ier. Il n'y a pas une vraie corrégence, mais en tout cas, il y a une volonté dans les représentations de plus en plus au Nouvel Empire de signifier ce lien filial à travers des représentations de ce genre. Et ici, pourquoi cette scène son couple, en tout cas son père et fils, face au nom de tous les rois, ancêtres. Donc la symbolique est assez évidente sous la question de l'ascendance. Et puisque nous parlons de succession des filiations, il me semble important d'ouvrir une brève parenthèse sur la notion même de dynastie. Lorsque nous parlons d'histoire et de périodisation égyptienne, vous le savez, les égyptologues utilisent peu les dates absolues. Ils privilégient une terminologie spécifique, celle des dynasties. Or, c'est essentiel, cette division en dynastie n'est pas une catégorie indigène de l'Égypte pharaonique, c'est une construction historiographique relativement tardive. Elle provient d'un prêtre égyptien du XIIIe siècle, Manéthon, et dans son œuvre, il subdivise l'histoire de l'Égypte en 31 dynasties. Mais que signifie exactement ce terme? Le mot grec « dynasteia » ne désigne pas nécessairement une lignée strictement familiale, comme nous avons tendance à l'entendre aujourd'hui. Il renvoie plutôt à l'exercice du pouvoir par un groupe cohérent des dirigeants. Ce groupe peut être une famille, mais il peut aussi inclure un entourage, un clan, un cercle de pouvoir. Autrement dit, la dynastie ne suppose pas obligatoirement une succession biologiquement ininterrompue. Dans la tradition politique grecque, notamment le terme dynasteia est d'ailleurs proche, d'une certaine manière, est proche de celui d'oligarchie. Il désigne la domination exercée par un petit nombre. Cela change un peu notre perspective. Ce que nous appelons changement des dynasties n'implique pas toujours une rupture radicale ou une absence totale de continuité. Il peut s'agir d'une reconfiguration du cercle du pouvoir. Et par ailleurs, j'en vois à ce livre d'Emmanuel Kerr sur penser l'oligarchie en Grèce et donc sur la terminologie employée. Après avoir proclamé son ascendance divine, le roi doit surtout prouver qu'il est capable de maintenir l'ordre au long de son règne. Sa force doit durer, ses capacités doivent rester intactes. Comme dans cette monarchie moderne, on met donc en scène le renouvellement royal du pouvoir à travers des célébrations jubilaires. C'est ce qu'en égyptien on appelle la fête Sed. C'est une fête très ancienne et c'est déjà le roi Djoser, que vous voyez ici, qui a construit son complexe funéraire avec des espaces qui permettent d'accomplir les différents rituels de cette fête de renouvellement du pouvoir royal. Des moments clés de la fête Sed, qui avait lieu après 30 ans de règne, et ensuite et d'autres fêtes Sed pourraient être accomplies par la suite, est la course rituelle que vous voyez ici. Le roi court qui était accompli ici, pardon. Pour démontrer, et cette cour permettait de montrer physiquement que le roi était capable, apte à gouverner, à maîtriser les frontières du pays, à garantir l'unité du pays. Il était ensuite intronisé sur un double trône qui se trouvait ici, comme roi des Hautes et Basses Égyptes. L'unité du pays est ainsi réactivée, au moins sur le plan symbolique. Voici quelques images, donc la course du roi Djoser, représentée dans son complexe funéraire, et une représentation donc, du double trône des Hautes et Basses Égyptes, dans laquelle donc, est représenté le souverain comme souverain de l'unité du pays. Et ici, une étiquette commémorative très très ancienne en bois d'ébène qui évoque le jubilé d'un premier roi des premières dynasties, avec ces deux moments clés de la fête Sed. Mais il fallait surtout créer du consensus. Créer l'ordre, garder l'ordre, être légitime, signifier bien gouverner et créer un consensus. En Égypte, il existait des modèles de conduite pour les rois, transmis par des textes appelés enseignements, ou par des sortes de mémoires fictives des souverains, qui définissait comment gérer, à travers des exemples parfois historiques, le pays. Deux textes sont célèbres, l'enseignement pour Mary Carey, transmis par son père Ketty, et l'enseignement d'Amenemhat Ier. Ces textes alternent des normes de conduite générales et des explications implicites, parfois à partir d'événements négatifs ou positifs de leur règne. Au cœur de ces enseignements se trouve la manière dont le roi doit maintenir le consensus aussi au sein de la cour, des magistrats et des notables locaux, tout en garantissant la prospérité du pays. Voici quelques extraits. Nous lisons qu'un extrait ici pour voir la teneur de ses propos presque philosophiques. Fais grandir tes nobles afin qu'ils accomplissent tes lois. N'est pas partial celui qui est riche dans sa maison, qui possède des biens et n'éprouve aucune pénurie, mais celui qui est dans le besoin ne parle pas selon sa justice. Il ne peut être équitable celui qui dit ou si seulement j'avais. Il est partial envers celui qui le paie. Est grand un grand dont les grands sont grands, donc il parle de lui. Est fort un roi qui a des courtisans. Et Auguste, celui qui est riche de nobles, soit équitable dans ta maison, afin que tu respectes les nobles qui sont sous la terre. Le témoignage d'un seigneur est l'équité du cœur. L'intérieur de la maison provoque le respect à l'extérieur. Et voici le début de l'enseignement d'Amenemhat Ier à son fils Sésostris. Intéressantes sont surtout les dernières phrases, un peu pessimistes, qui sont des claires références à la conjuraison dont il a été victime, on en parle tout après, et dont les détails sont donnés plus loin dans ce même texte. Mais il dit au début, donc le début de l'enseignement donné par Sa Majesté, c'est le début. Et le roi dit à son fils, et toi qui es apparu en tant que roi, écoute ce que je vais te dire, afin que tu sois roi sur la terre et souverain des régions et que tu accroisses la prospérité. Méfie-toi de tes subordonnés, afin qu'il ne se produise rien dont les préparatifs aient été négligés. Ne t'approche pas d'eux lorsque tu es seul et ne fais pas confiance à un frère. Un pouvoir légitime repose sur le consentement de ceux qui sont soumis. Le concept de légitimité n'a de sens que dans des régimes où les dirigeants gouvernent en accord avec les valeurs de la société. Dans la pratique, la monarchie cherche à créer un consensus autour d'elle par différents processus dynamiques, notamment en consolidant son lien avec les élites. La légitimation est un fait social, hein, et c'est d'abord un phénomène de subjectivation des valeurs monarchiques qui peut se concrétiser dans des pratiques. Dès le Moyen-Empire, avec les réformes administratives de l'époque, une littérature pédagogique est créée pour transmettre les valeurs monarchiques et loyalistes aux scribes et aux administrateurs. Ces textes étaient étudiés dans les écoles et conservés dans les bibliothèques des temples et privés. Mais la légitimation passe aussi par des actions concrètes dont l'effet reste puissant. La récompense, par exemple, des dignitaires. Cela peut prendre la forme d'attribution des terres ou des richesses aux soldats ou de cérémonies publiques affichant la proximité de certains notables avec le roi, ce qui souligne leur participation au système politique. Le roi donc peut se montrer, par exemple, au peuple lors des célébrations religieuses, qu'il conduit les processions divines, ou alors lors des cérémonies plutôt laïques où il récompense les dignitaires avec ce qu'on appelle l'ordre de la récompense. Des lingots, des colliers. Et par exemple, ici, vous avez le relief représentant Seti Ier dans une fenêtre à balustrade d'où il sort pour récompenser son général à Hormine. Célèbres sont aussi les scènes d'apparition du couple royal d'Akhenaton et Nefertiti, Akhenaton, comme celle-ci, et à Medinetabou. Le palais royal cérémoniel est relié à la première cour du temple par un portail percé dans le mur de l'enceinte et accessible par des rampes. Et comme vous pouvez le concevoir ici, ces fenêtres d'apparition permettent de voir le roi depuis le temple, renforçant le pouvoir symbolique et au roi donc de donner ses récompenses lors de la récompense à ses sujets. Ces apparitions ritualisées créent un consensus autour de la personne royale et constituent un puissant moyen de légitimation politique. Maintenant qu'on a vu un peu comment s'est construit le dogme royal et comment la légitimité pouvait se négocier, passons aux principaux mécanismes de délégitimation et à la manière dont la royauté a tenté ou pas de se protéger. On peut observer plusieurs formes de contestation ou de réorganisation, amoindrissement du pouvoir, les conspirations, par exemple les damnas memoriae, agissent de manière directe, soit par les rivaux ou les successeurs, pour délégitimer le roi. À l'inverse, les oracles présentent un mécanisme plus subtil, la parole divine, d'abord instrument des propagandes royales, peut devenir un boomerang se retournant contre la royauté. La délégitimation directe vise le roi par des actions humaines visibles, tandis que la délégitimation indirecte retire symboliquement son autorité par un effet de soustraction. Prenons l'exemple de l'oracle, nous avons évoqué tout à l'heure comment Hatshepsut exprime son ascendance divine, c'est Amon qui l'annonce comme successeur au trône. Or, cette narration devient rapidement une pratique des types oraculaires par ses successeurs. Nous l'avons un peu vu tout à l'heure, mais ici, par exemple, l'inscription de Karnak, qui décrit la jeunesse du pharaon Toutmose III, le neveu d'Hatshepsut, et on y lit donc « Alors que sa majesté était encore un enfant, que j'étais un jeune garçon dans son temple, je me trouvais au nord de la Wajit, une partie du temple, et à mon sorti de l'intimité de son horizon, il mit en fait le ciel, la terre par sa splendeur, et accomplit un grand prodige. Ses rayons furent aux yeux des nobles, comme le lever d'Orati. Le dieu fit le tour de la Wajit, cette salle, et des dieux écoutaient. Le témoin ne se rendait pas compte de ses agissements, tandis qu'il cherchait sa majesté partout. Lorsqu'il m'est reconnu, il s'arrêta. Amon s'arrêta. La statue d'Amon s'arrêta. Je me prosternai devant lui, j'étais étendu sur le sol, je m'inclinai devant lui, il me plaça devant sa majesté, je m'arrêtai aux stations du maître, il rendit un oracle en ma faveur. Il a écarté pour moi les bâtons de la voûte céleste, il a ouvert pour moi les portes de l'horizon, je me suis envolé vers le ciel comme un faucon divin, c'est-à-dire comme un souverain. Le faucon, c'est un synonyme des souverains. Mais de plus en plus, la population s'adresse à la statue du dieu lors des processions hors du temple. Je pense, voilà. La légitimation du roi, j'ai oublié cette slide, même des souverains dont le lien parental est assuré, comme Ramsès II, va suivre ce genre de pratiques et va suivre donc deux orientations. D'une part, on va insister sur la notion des lignées familiales avec une succession de père en fils directe, et d'autre part, on va exalter l'ascendance divine du roi en faisant appel à une proclamation oraculaire d'un dieu suprême. L'inscription dédicatoire de Ramsès II, que vous avez ici sous les yeux, dans le temple de son père Séti Ier Abydos, est assez révélatrice de la combinaison de ces deux conceptions. Et de plus en plus, la population s'adresse à la statue du dieu lors des processions hors du temple afin de poser des questions juridiques, par exemple, ou des affaires de droit commun, et d'obtenir ainsi une réponse divine. Il s'agit souvent des questions d'héritage, de prébendes, de charges, de prébendes, de questions concernant les propriétés foncières, mais aussi pour des questions judiciaires plus graves. Cette pratique est ancienne. Dans le devoir du vizir, qu'un texte qui définit les fonctions du vizir et dont la composition remonte peut-être au Moyen-Empire, il est explicitement recommandé de ne pas recourir à ce type de procédure. Autrement dit, la légitimité de la parole oraculaire est, dès l'origine, envisagée avec prudence et encadrée. Cependant, avec les crises des successions de la 20e et surtout 21e dynastie, la situation évolue profondément. La parole politique de la divinité ne se contente plus de soutenir le roi, elle tend à se substituer à lui dans la gestion des affaires locales. C'est ainsi que s'installe progressivement ce que les égyptologues ont qualifié de théocratie pour la troisième période intermédiaire. Dans le dogme royal, le roi est la voix des dieux, le juge suprême, la balance des hommes, mais désormais, ce sont les grands prêtres d'Amon et le clergé thébain qui peuvent orienter les décisions en interprétant les mouvements de la statue divine lors des processions. Les rois tentent de contenir cette perte de légitimité en plaçant à la tête du clergé, par exemple, des membres de leur propre famille ou des hommes dont la loyauté leur était acquise, mais pas toujours avec succès. La contestation du pouvoir existait réellement, même si les sources n'en parlent peu. Alors, les révoltes sont mieux documentées à partir de l'époque hellénistique. Avant, elles sont à peine attestées. Les inscriptions monumentales et les temples évitent de mentionner ces événements négatifs. La littérature didactique montre cependant que le problème était bien connu et thématisé. Dans l'enseignement pour le roi Méricaré, par exemple, il est clair que le roi doit combattre les contestataires. Il dit « accomplis la justice, Afin que tu dures sur la terre, console celui qui pleure, n'opprime pas la veuve, ne chasse pas un homme de la propriété de son père, ne prie pas les grands de leur poste, prends garde à ne pas punir injustement. Il continue et dit, ne juge pas si cela n'était pas réellement utile, mais punis par le fouet et par l'emprisonnement. Ainsi ce pays sera fondé. Juge le rebelle dont les plans sont découverts, mais seul Dieu connaît le mal intentionné et Dieu frappera sa faute par le sang, tandis que le doux vivra heureusement son temps de vie. Ne tue pas un homme dont tu connais l'excellence avec lequel tu as lu à voix haute des écrits. Alors remarquez aussi combien de prudence l'on recommande de voir dans ce contexte. Il doit punir, mais être juste et avisé, stratégique. En effet, la contestation n'est pas toujours réprimée de manière exemplaire, elle est souvent négociée ou modulée. Il est indubitable que l'administration pouvait traverser des périodes de tension, d'insatisfaction parmi certains groupes de la société, parfois en raison des dysfonctionnements administratifs. Lorsque le mécontentement était légitime, par exemple, la contestation pouvait être tolérée. C'est le cas de la grève sur Ramsès III, la première connue de l'histoire documentée par ce papyrus. Le papyrus est rédigé par le scribe Amenart, vers 1170 avant notre ère, relate les plaintes d'ouvriers de la vallée des rois privés de leurs rations. Ces artisans dénoncent la corruption et le vol des matériaux destinés aux tombes royales. Face à l'inaction des officiers, qu'est-ce qui se passe ? Ces ouvriers organisent un sit-in, un vrai sit-in, derrière le temple de Thoutmôsis III pour se faire entendre. Puis d'autres grèves et sit-in vont suivre. Alors, les tactiques de protestation décrites dans le papyrus se répètent périodiquement et pouvaient durer jusqu'à deux saisons entières. Un papyrus inédit, conservé à Turin et provenant de Délémédiné, actuellement étudié par Stéphane Polis de l'Université de Liège, et que je remercie pour cette information, montre que ces grèves étaient probablement consignées dans des annales. Pas sous des monuments, donc sous des chroniques archivées. Attestant que des épisodes similaires existaient déjà avant Ramsès III. Ces événements pouvaient également servir dans la négociation entre l'autorité et la société, pour rappeler que, comme par le passé, les actions de contestation étaient inefficaces. Qu'est-ce que c'est pas cette qu'ainsi, par exemple, comme le suggère ce papyrus, une lettre adressée aux ouvriers par l'autorité, manifestée sur la colline à proximité du village, pour attirer l'attention, exprimer son mécontentement, était présenté comme inutile et même dangereux si cela continuait. Mais toute contestation n'était pas négociable. Les paroles politiques jugées subversives étaient considérées comme une affaire sérieuse et pouvaient entraîner de lourdes sanctions. L'une des manières pour la royauté pour se protéger de la parole politique délégitimante était le délit du blasphème. La question du blasphème est récurrente dans la littérature didactique égyptienne. En particulier, on le retrouve bien thématisé dans les enseignements. Et prenons ici un exemple. Dans l'enseignement loyaliste, le nom du roi occupe une place centrale. Il ne s'agit pas d'un simple nom propre, celui du roi, qu'il ne faut pas mentionner, mais d'un support symbolique, on pourrait dire comme ça, du pouvoir, un signe qu'il faut défendre, un nom qu'on peut aussi utiliser, par exemple, dans les serments, et qu'il faut donc honorer. Je lis « combattez pour son nom, celui du roi, et respectez le serment qui l'invoque. Abstenez-vous de commettre le délit d'offense. » Ce passage se termine par acclamer la couronne de Basse-Égypte, adorer la couronne blanche de Haute-Égypte, rendre hommage à celui qui porte la double couronne, le roi. Les couronnes sont des manifestations ici du roi. La sanction est sans ambiguïté, est ici écrite, s'opposer au roi, même par la parole, même par l'injure, expose à la noyade. On lit, le partisan du roi sera un bienheureux, mais pas des tombeaux pour ceux qui se rebellent contre sa majesté. Son cadavre est jeté à l'eau. Par ailleurs, les sources documentaires, non seulement littéraires, montrent que cette menace n'était pas théorique, mais bien réelle, on va le voir tout de suite. Mais les X, une autre punition, encore plus radicale, qui concerne l'au-delà, insulter le nom, le roi, entraîne la négation de la tombe et des offrandes funéraires. C'est ce qu'on annonce donc l'enseignement. Mais on va retrouver cela aussi dans un autre dans un autre domaine, celui funéraire. Ce contrôle de la parole se prolonge dans la littérature funéraire et magique au moment du jugement dans l'au-delà face à Osiris, le dieu des morts. Le défunt doit énoncer lui-même qu'il n'a pas commis ce type de faute s'il veut accéder à la vie éternelle. C'est un chapitre en particulier du livre de mort, le grand recueil de formules destinées à permettre aux défunts de sortir au jour après et de renaître, en fait, d'une certaine manière. Dans la confession négative du livre de mort, également connue sous le nom de déclaration d'innocence, il y a une liste de 42 péchés que l'âme du défunt peut honnêtement affirmer n'avoir jamais commis lorsqu'elle est jugée dans l'au-delà. Voici les 42 péchés qui sont énoncés. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, et chacune est protégée par une divinité spécifique. Il s'agit de se dire conforme, de produire un discours de vérité sur soi. La norme politique, le rejet du délit de blasphème contre le roi, devient ainsi une norme intérieure, intégrée au processus même de salut. Autrement dit, la loyauté envers le roi ne conditionne pas seulement la vie, la survie sociale, ici-bas, elle conditionne aussi le salut dans l'au-delà. Et le pouvoir royal ne gouverne donc pas seulement par la contrainte, mais par la production de la vérité, par la subjectivation et par l'inscription durable de la norme dans le corps des hommes, celui qui est pesé dans le jugement de l'au-delà et donc dans les paroles et les espoirs d'éternité. Voici quelques exemples d'une tombe sur laquelle je travaille. J'étais en Égypte jusqu'à il y a quelques jours. La représentation dans les tombes privées de cette protestation d'innocence. Et ici, l'emplacement de cette énoncé. Je n'ai pas insulté le roi qui devait être produit par le défunt. Donc, face à l'Amat. Vous voyez ici la représentation de l'Amat, donc la déesse de l'ordre, qui est fait face au défunt ici, qui est en train donc de protester sa moralité d'une certaine manière. Et on dispose aussi d'autres sources documentaires qui montrent à quel point le délit de blasphème était une réalité concrète. Dans un ostracon retrouvé à Délémédiné, donc le village des ouvriers chargés de creuser les tombes royales, on apprend qu'un conseil s'est réuni pour juger et punir l'un des membres de l'équipe. Son crime, c'était quoi ? Avoir maudit et injuré le roi Séti pour lequel ses hommes travaillaient précisément. Il a maudit Séti. Or, il est certain que ce délit du blasphème était nuancé. Un petit objet provenant de la même communauté dresse la liste, par exemple, des ânes dans cet an Sénéphère. Et l'un d'eux porte, de ces ânes porte le nom de Ramsès, le roi Ramsès. À Délémédiné, les habitants respectaient formellement les rois pour lesquels ils construisaient les tombes. Certains rois avaient même des chapelles associatives dans le village. Et alors donner un rhum royal à un âne n'est pas si surprenant. Mais souvent, les noms évoquent un roi ou un dieu sont des formules d'autres types, par exemple « que Ramsès vive » et non le nom direct. Ici, c'est juste Ramsès. Ici, vous avez le nom à la fin. C'est le nom d'un âne. Et peut-être, c'est ici, donc ça peut être un hommage ou alors peut-être un petit plaisir à frapper l'animal avec un bâton, on ne le sait pas. Mais ces artisans n'étaient pas dépourvus d'humour, il faut le savoir. Il est certain qu'un petit trait subversif ou satirique pouvait se glisser tant qu'il restait discret et respectueux de l'autorité royale. On connaît d'ailleurs des ostracas qui montrent des fonctions de roi ou de noble inversées. Ce sont les chats qui sont représentés en train d'offrir à l'offrande à des souris. Et ce qu'il ne fallait surtout pas faire, c'était critiquer ouvertement le roi ou parler des questions sensibles. Dans une lettre comme celle-ci, on apprend qu'un général a fait assassiner par noyade des policiers qui semblaient avoir trop parlé. Plutôt que de les juger devant un tribunal, il a préféré de les faire disparaître. Ainsi, aucun propos subversif ne pouvait se propager. Il y a également des textes de type magique dans lesquels on pouvait avoir des récits comme des figurines d'envoûtement dans lesquels on mentionne des ennemis du roi, et ces ennemis sont ceux qui mentionnent le roi de manière pas très éthique. Il y a évidemment des conjurations aussi qui sont connues. C'est une forme extrême de délégitimation d'un souverain et qu'avec son élimination de son vivant. Ce qui est important de savoir et d'observer, c'est que ces conjurations ne sont pas connues seulement durant les époques dites faibles des pouvoirs, les périodes intermédiaires, mais pendant les époques de pouvoir fort, les empires, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire. Nous avons des exemples de conspirations faites d'habitude par le harem, donc pour essayer de mettre son fils, le faire succéder à un fils secondaire, parfois après le roi légitime ou le prince légitime. Vous avez des exemples pour Pépi Ier, l'Ancien Empire, pour Amenemhat Ier au Moyen Empire. Et d'ailleurs, c'est le conte des Sinoués commence par l'assassinat d'Amenemhat Ier. Et c'est pourquoi Sinoué est parti d'Égypte. Vous avez enfin le cas de Ramsès III, qui est particulièrement frappant. Le papyrus judiciaire de Turin est un enregistrement du procès tenu contre les conspirateurs du complot, dont certains sont membres de la famille royale. Certains ont été invités au suicide pour ce qui était accompli. C'est-à-dire que la momie de Ramsès III montre d'ailleurs clairement les traces d'une blessure mortelle à la gorge, donc ce assassinat a bien eu lieu. Et une autre, c'était à travers une conjuration, un jugement posthume négatif et radical pouvait être porté, évidemment, vous le connaissez bien, soit un souverain, par le biais d'une damnatio memoriae. Nous en connaissons plusieurs, mais surtout la forme la plus célèbre de condamnation du roi, pourtant légitime, concerne évidemment Akhenaton. Après sa mort, vous connaissez tous Akhenaton, c'est lui qui élimine officiellement le culte d'Amon, qui fonde une nouvelle capitale en honneur d'un dieu unique, Aton, le disque solaire. Après sa mort, survient une véritable restauration. L'un de ses successeurs, les plus immédiats, Toutankhamon, rétablit le culte d'Amon. Les monuments consacrés à Aton sont démantelés et le nom même d'Akhenaton devient tabou. Lorsqu'on veut se référer à ses années de règne, on parle de Sebi, le rebelle, le traître. Bien qu'il soit difficile de mesurer précisément le sentiment populaire à l'égard des rois, il est clair qu'Akhenaton ne faisait pas l'unanimité. Avec les retours d'ailleurs à la capitale Thèbes, sa dépouille aurait été transférée de la nécropole d'Akhenaton vers la vallée des rois, et la tombe, qui semble être la sienne, a probablement été profanée avant d'être refermée. Des pierres ont été probablement jetées, en tout cas son équipement a été abîmé. Voilà donc quel pouvait être le prix de la légitimation d'un souverain. Pour terminer cette liste d'exemples, en tout cas, j'aimerais juste rappeler qu'un dessin similaire a touché d'autres personnages dont le pouvoir a dépassé des principes dont les successeurs ont dû juger inappropriée la nature de dangereuse. Et c'est le cas du grand chancelier Bailly, à une époque où les successions étaient complexes et difficiles, la succession de Séti II, ici. Non seulement il y avait déjà eu un roi usurpateur en Nubie, à Menenmes, mais on peut déjà passer déjà à Séti II, qui meurt peu de temps après ce roi usurpateur appelé Amenemhès, et c'est le roi Meremta, Sipta, qui monte sous le trône. Il est fils de Séti II, et sans doute par une épouse secondaire, et donc bien légitime. L'image ne reste pas. Mais ce roi était infirme, comme vous pouvez constater l'image ici sur la droite qui s'affiche mal. Et Sipta était le jouet d'intrigue parce que c'est son chancelier qui prend donc le dessus. Le pouvoir est exercé par un régent nommé Bailly, d'origine syrienne, qualifié de celui qui a établi le roi sous le trône de son père, et qui eut le privilège même d'avoir une tombe dans la vallée des rois. Il est même représenté comme précepteur du roi avec le roi sous les genoux. Vous voyez ici la statue. Or, Bailly semble avoir fait les frais de son ambition et des luttes de pouvoir qui s'exerçaient au sein de la cour à cette époque, notamment avec la reine Tauzert, veuve de Séti II. Dans le village de Delmidiné arrive une information, probablement celle d'arrêter de travailler dans la tombe de Bailly. Sous un ostracon, vous le pouvez le lire ici, l'information est précise. Le roi, probablement le successeur de Séti II ou la reine Tauzeret, a tué le Bailly. Tauzeret était probablement à la manœuvre, éliminant ainsi un adversaire dans le contrôle des affaires du royaume. À titre de conclusion, à travers quelques cas d'études, je vais essayer de faire vite, je voudrais souligner une question clé pour aborder le thème de la légitimité dans une civilisation millénaire comme celle de l'Égypte, la temporalité. Chez les anciens, la manière de percevoir, de parler et de définir la légitimité n'était pas constante. Il n'existe pas des mémoires ou des normes permanentes et immuables, mais toujours une légitimité en mutation contingente liée à des moments, des expériences et des attentes spécifiques. Si on prend l'exemple de la deuxième période intermédiaire, une époque, une période de morcellement du territoire du point de vue politique, avec différents royaumes auxquels la tradition attribue différentes dynasties. La carte que vous voyez ici n'est qu'à titre illustratif. Quand les données de cette époque changent régulièrement. En tout cas, c'est une période dans laquelle l'unité du pays n'existe plus. Et comment envisager cette crise du pouvoir? Comment réagir à cela? Mais les réactions sont différentes selon les époques. À l'époque, des rois, en tout cas, qui se partagent le pouvoir, étaient différentes qu'à une époque successive. À des époques successives, on va le voir. Donc, la deuxième période intermédiaire se caractérise surtout par l'émergence dans le nord des chefs égyptianisés, d'origine en grande partie syro-palestinienne, les Hyksos, les 14e et 15e dynasties de la chronologie égyptienne. Et le terme Hyksos dérive très probablement de l'expression égyptienne Rekhasut, vous le connaissez bien, chef des pays étrangers. Ce qui est intéressant, c'est que ces souverains adoptent des noms des couronnements égyptiens et s'inscrivent ainsi dans la continuité de la tradition pharaonique. Ils ne se présentent pas comme des anti-rois, mais comme des pharaons légitimes. Alors, après des longues campagnes militaires, ils sont finalement vaincus par des rois originaires de Thèbes, qui réunifient le pays et fondent le nouvel empire. Mais la perception des rois Hyksos est complexe et évolue selon les époques et les régimes politiques ultérieurs. À l'époque même du conflit, les rois thébains les présentent comme des adversaires à combattre, mais ne nie pas pour autant la réalité politique. Le pays est divisé et cette division constitue une crise majeure de l'ordre royal, mais il n'y a pas de damnatio memoriae, par exemple, à cette époque de ces rois. Voici les mots du roi thébain Kamosé, qui se plaint directement de devoir partager le royaume avec deux autres souverains ou gouverneurs, l'un dans le delta et l'autre en Nubie, c'est-à-dire dans le royaume des Couches. Malgré cette hostilité, aucune damnatio memoriae n'est en cours à cette époque. Alors que c'était vraiment le moment où on aurait imaginé qu'on aurait voulu oublier ces rois adversaires et venus de l'étranger. Et en revanche, dans un temps différé, à l'époque d'Hatshepsut, presque un siècle après les événements, la deuxième période intermédiaire est considérée comme une époque trouble. Sans dieu, ni Ré, de soleil, et les Hyksos sont vus comme une abomination. Hatshepsut utilise ce passé comme un modèle fonctionnel, opérationnel, opératoire, pour mettre en avant la légitimité de son règne. Elle affirme, en quelque sorte, être elle-même la raison de la fin des troubles commencés avec les Hyksos des décennies, décennies, décennies bien avant. Donc, c'est le réemploi de l'histoire pour des questions qui sont très différentes d'une époque à l'autre. Or, dans un temps encore plus dilaté et différé, et dans un type de source qui n'est pas commémoratif, mais plutôt analytique, les rois, la succession des rois, deux rois Hyksos apparaissent comme légitimes, ou du moins intégrés dans la série des rois d'Égypte. Deux d'entre eux figurent ainsi sous la table généalogique d'Ankhenes-Sekhmet durant la troisième période intermédiaire. Pour quelle raison ces rois, un des s'appelle Apophis, un certain Chalek, inconnu par ailleurs. Pour quelle raison ces rois indésirables, selon la mémoire collective de l'époque d'Hatshepsut, y figurent? Bien après, il est difficile de le savoir, mais c'était possible. De même, dans le canon royal de Turin, le papyrus de l'époque Ramesside, qui présente une liste de tous les rois d'Égypte, une liste assez complète, avec même les années de règne de chaque roi, les rois Hyksos sont également mentionnés. Apparemment, bien que leur identification reste parfois problématique. On voit donc clairement que la question de la légitimation ne suit pas des principes linéaires, mais s'inscrit dans des temporalités contingentes. La manière de percevoir et d'écrire un même souverain ou groupe de souverains change beaucoup d'une époque à l'autre et d'un type de source à l'autre. Ainsi, Hatshepsut, cette reine qui invente en quelque sorte l'ascendance divine avec Amon, qui s'érige en champion de l'ordre contre les rois illégitimes Hyksos, mais qui s'arroge un pouvoir royal masculin au détriment du neveu dont elle était la régente, fera elle-même l'objet dans un futur immédiat, après sa mort, d'une damnation memoriae, pour après sa mort, donc ses représentations masculines et son nom seront martelés à l'époque du règne de Thoutmôsis III, adulte. Pour conclure, j'aimerais vous présenter l'exemple de ce récit sériographique égyptien composé autour du IIIe siècle avant notre ère, la chronique démotique. C'est un texte historique égyptien rédigé en écriture démotique couvrant la période tardive de l'Égypte. Elle consigne les règnes des souverains, leur action et parfois des jugements divins ou posthumes signalant légitimité et délégitimation. Elle sert à la fois des registres chronologiques et des sources, pour nous en tout cas, pour comprendre comment la mémoire royale et la succession étaient perçues dans l'Égypte plutôt tardive. La chronique démotique s'inscrit parmi les nombreux textes à caractère prophétique oraculaire produits dans les derniers siècles du premier millénaire à travers le Moyen-Orient, le Proche-Orient. En Égypte, elle rejoint un ensemble d'œuvres telles que l'oracle du potier, l'oracle de l'agneau, le songe de Nectanebo, et dont le style archaïque rappelle parfois l'époque glorieuse du Moyen-Empire. Le texte dénonce en particulier la domination étrangère sous l'Égypte, notamment celle des Perses, sous Cambyse, Xerxès et d'autres, et utilise des manières de s'exprimer sur la légitimité du souverain qui sont quelque chose d'assez révolutionnaire, nouveau en tout cas, par rapport à la littérature classique égyptienne. Le texte est parfois difficile à comprendre car il s'agit des propos oraculaires souvent glosés et interprétés. Ce qui est vraiment nouveau ici, c'est que les rois et leurs successeurs sont jugés selon des critères moralistes. Dans la littérature égyptienne classique, ce type de jugement que vous pouvez lire ici n'est jamais exprimé de la même manière. Ici, par exemple, la prophétie, et ensuite son explication. Donc, cela signifie le troisième souverain à Kori, qui vient après les Mèdes, c'est-à-dire les Perses, on lui donne, signifie, comme il abandonne la loi, un autre, Psamouti, lui succède alors qu'il est encore vivant. La quatrième ne fut pas. Cela signifie le quatrième souverain après les Mèdes, c'est-à-dire Psamouti, ne fut pas. Signifie, il n'a pas suivi la voie de Dieu et on ne le maintient pas comme souverain. La cinquième est complète. Cela signifie le cinquième souverain après les Mèdes, c'est-à-dire Akori, qui renouvelle l'intronisation. Les dieux lui permirent de compléter ses jours de règne tant que cela fut bénéfique pour les temples. Mais son règne fut interrompu pendant 2 ans lorsqu'il abandonna la loi et ne se soucia pas de ses frères. Le sixième ne fut pas. Cela signifie le sixième souverain après les Mèdes, c'est-à-dire Néférite II, ne fut pas. Signifie les dieux n'ordonnèrent pas que la loi de son père se poursuive et mirent fin de manière défavorable au règne de son fils Néférite II après lui. Il y a une autre innovation ici, ce ne sont pas seulement des règles d'ordre comme l'impiété ou l'avidité envers les temples qui sont mentionnées, qui servent à juger les souverains, mais l'histoire elle-même devient un juge. La brièveté de certains règnes est utilisée comme critère pour justifier l'illégitimité de certains rois. Cet aspect, comme l'ont souligné plusieurs historiens déjà, rappelle la culture biblique où les rois sont soumis à une norme supérieure, la loi, à Dieu, qui jugent leurs actions et leur cours de l'histoire. Dans la tradition pharaonique classique, en revanche, le roi n'est pas jugé par une instance supérieure et personne n'est pas en son nom en soi. Ce récit moralisant, celui de la chronique démotique, est possible parce que l'Égypte, peut-être de l'époque, est influencée par des cultures étrangères, grecques et probablement hébraïques. Cela montre une fois de plus comment les manières d'exprimer la légitimité des rois égyptiens évolue selon les époques et les contextes culturels. Le roi, comme ici, juste cet exemple d'où a tiré le début du titre, l'intitulé en tout cas de cette conférence, le roi est considéré comme un jardinier qui s'occupe de la prospérité du pays et notamment des temples, mais qui ne fait pas son travail parfois et donc ici expressément accusé, voire sollicité à travailler mieux, au jardinier, fais ton travail. Cela signifie au pharaon, fais ton travail. Il se réfère au pharaon Nectanebo, c'est-à-dire à son travail d'avidité. au chef jardinier, plante à plantation. Cela fait de nouveau référence à lui. Le reste des autres actions se rapporte à planter des cultures en plus de sa richesse volée. Arrose les petits arbres, fait vivre les grands arbres. Cela indique le reste des choses, une manière de dire « garde-toi de l'avidité ». Voici donc ce texte moralisant sous l'histoire et sous la légitimité des rois d'Égypte. Pour conclure, ce n'est pas question de construire une nouvelle théorie de la royauté égyptienne, mais ces derniers exemples, je l'espère en tout cas, permettent d'observer de manière historiquement située, de dire le pouvoir, la crise, l'ordre. On pourrait peut-être faire appel à des théoriciens de l'histoire politique, de l'histoire des concepts, pour mieux définir les phénomènes observés. Je pense notamment aux catégories proposées par Kozelek, notamment l'articulation entre expérience du passé et horizon d'attente, ainsi que celle de Hartog sur les régimes d'historicité, car ces catégories offrent un cadre heuristique pour comparer ces configurations. Elles permettent simplement de penser comment, selon les contextes, la légitimation ou la délégitimation du pouvoir royal passe par des usages différenciés du temps, de la mémoire et de la crise. Les Égyptiens mobilisent le passé à toutes les périodes, mais pas de la même manière. Au Moyen-Empire, le passé fonctionne surtout comme un réservoir normatif. À l'époque tardive, notamment dans la chronique démotique, il devient un outil de comparaison des jugements des règnes. Il n'existe pas une légitimité égyptienne transhistorique, universelle, intemporelle ou transcendante. La perception de l'expression de la légitimité se décline selon des régimes historiques. Chacun lié à une situation particulière et à des expériences et attentes spécifiques, à une manière de voir le passé pour expliciter ou pour expliquer le présent en gardant le futur comme référence. Cela permet en partie surpasser le cadre souvent évoqué de la pérennité de la mémoire collective égyptienne. La manière de penser remoduler l'histoire passée est contingente et pas pérenne, bien que l'Égypte, de l'Égypte éternelle que vous connaissez bien, cette formule qu'on utilise beaucoup, puisse être un peu une approche trompeuse, peut-être à changer ultérieurement. Merci pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.